Vous êtes sur RTL.
Pour vous informer à 6h30, Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
On n'a pas fini d'entendre Alexandre Benalla.
N'en déplaise à l'Élysée qui pensait avoir tourné la page, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron est à nouveau convoqué devant les sénateurs dans 10 jours. Dans l'actualité également, nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. Demain, les autorités prennent les devants, 80 000 forces de l'ordre mobilisées. Le site Vente Privée épinglé par la répression des fraudes pour tromperie sur les prix. Et puis les handballeurs français à l'assaut d'un troisième titre mondial consécutif. Première mise en jambe ce soir face au Brésil.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez aujourd'hui avec Édouard Philippe en Allemagne.
Le Premier ministre en stage Erasmus chez des collégiens allemands.
De météo d'ici 7h.
6 degrés cet après-midi à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne sous un ciel couvert et un risque d'averse.
RTL Matin.
Vous avez aimé la saison 1, vous aimerez peut-être la saison 2.
Alexandre Benalla est convoqué devant les sénateurs le 21 janvier. Il devra s'expliquer cette fois sur ses passeports diplomatiques qu'il a pu utiliser en décembre alors qu'il était censé les avoir rendus. Les sénateurs ont encore beaucoup de questions à poser à l'ancien garde du corps du président. Et avant son audition, mercredi prochain, ce sont les deux ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian, donc, qui devront s'expliquer. Le feuilleton continue. Marie-Bénédicte Allaire.
Non, Emmanuel Macron n'en a pas fini avec Alexandre Benalla, comme le lui rappellent les sénateurs. Fin décembre, quand on apprend que l'ancien chargé de mission a continué à voyager avec des passeports diplomatiques, les sénateurs lancent une première salve. Ils demandent des explications et ils le font savoir. Car en septembre, Alexandre Benalla leur a déclaré sous serment qu'il n'avait plus ses passeports. Alors a-t-il menti ou bien les a-t-il récupérés plus tard et dans ce cas, qui les lui a remis? Ces explications, il les demande non seulement à l'ancien chargé de mission, mais aussi à l'Élysée et aux ministres Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian. Et pour bien montrer qu'ils ont des doutes sur l'ensemble du dossier, ils ajoutent deux autres demandes. Alexandre Benalla a-t-il cessé toute collaboration avec l'Élysée après son licenciement? Et enfin, a-t-il pu exercer des activités privées parallèlement à ses fonctions officielles? Eh bien, visiblement, ils n'ont pas été satisfaits par les réponses, d'où ces nouvelles auditions.
Marie-Bénédicte Allaire, nous sommes à la veille d'un neuvième samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Ils étaient 50 000 à manifester la dernière fois. Il y aura 80 000 gendarmes et policiers déployés demain partout en France. Ce sera aussi le retour des blindés dans la capitale, 14 véhicules. Autre point chaud demain en dehors de Paris, la ville de Bourges, où plusieurs appels de Gilets jaunes appellent à converger. Chantal Jouanneau ne démissionnera pas de la présidence de la Commission nationale du débat public, malgré la demande sous-entendue hier matin sur RTL de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Une sortie qu'elle juge indigne ce matin dans le Figaro. L'ancienne ministre s'est retirée de l'organisation du grand débat.
Les deux pilotes du Mirage 2000 sont bien morts.
Il y avait à bord donc un homme et une femme. L'avion de chasse s'est crashé dans le Jura, dans une zone boisée à 1000 mètres d'altitude. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. La ministre des Armées, Florence Parly, se rend aujourd'hui sur place, sur la base de Nancy, d'où avait décollé l'appareil mercredi matin.
Le site venteprivée.com est épinglé.
La répression des fraudes l'accuse de tromperie sur les prix en mettant en avant de faux rabais. Ce n'est pas la première fois que le spécialiste des promos doit se justifier de telles pratiques. Alexandre Chevalier de la DGCCRF.
On reproche à Vente Privée des faits qui relèvent de la pratique commerciale trompeuse, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'induire le consommateur en erreur. Plus précisément, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir cherché à donner à ses clients l'illusion de faire une bonne affaire en mettant en place des stratégies qui sont des stratégies frauduleuses visant à construire un faux prix de référence et ainsi donner l'illusion de grosses réductions, alors que ce prix de référence n'avait pas de réalité économique.
Elle encourt quoi, cette entreprise?
Alors, les faits que nous avons relevés, ils relèvent de la pratique commerciale trompeuse. C'est des faits qui sont punis pour une personne morale par une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 000 euros et qui peut être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise.
Et c'est à la justice maintenant de prendre le relais. Alexandre Chevalier, propos recueillis par Armel Lévy.
.fr. RTL Matin,
Julien Cellier.
Et la suite de votre journal à 6h37 sur RTL. Jean-Claude Roman, ce faux médecin qui avait tué sa femme, ses enfants et ses parents, saura aujourd'hui s'il peut sortir de prison.
En janvier 93, il mettait le feu à sa maison dans l'Ain après avoir tué par balle toute sa famille. Pendant 18 ans, il s'était inventé une vie de chercheur à l'OMS. Tout était faux. Il a purgé sa peine de sûreté. Il est libérable. Il a défendu son dossier fin novembre. Il peut aujourd'hui sortir en théorie, Jean-Alphonse Richard.
Ben oui, après un peu plus de 22 ans passés en prison, Jean-Claude Roman sait qu'il n'a jamais été aussi près d'une libération conditionnelle. Avec son avocat, l'ancien faux médecin avait passé des semaines à monter son dossier. la garantie d'un emploi, la promesse d'un hébergement. Tout a été examiné dans le détail. C'est un projet très bien ficelé et très sérieux, avait déclaré Maître Abad le 20 novembre, après 3 heures de débat devant le tribunal d'application des peines. Des juges qui, ce jour-là, ont aussi écouté les avis contraires. En tout premier lieu, la partie civile, les deux frères de Florence Roman, l'épouse assassinée. Selon eux, une libération serait prématurée et source de troubles. Même avis pour le procureur, le ministère public s'oppose à la sortie de Jean-Claude Roman qui serait resté dangereux. Le criminel a toujours été un détenu modèle. S'il est libéré, il évitera la lumière, assure son avocat.
Jean-Alphonse Richard, aux États-Unis, Donald Trump sur le point de battre le record de Bill Clinton qui avait connu un shutdown de 21 jours le plus long de l'histoire américaine. Si le blocage de l'administration continue, on en sera à 22. Puis on apprend à l'instant que le patron de Renault, Carlos Ghosn, est inculpé pour abus de confiance et revenus minorés. Ça se passe en ce moment au Japon, on n'a pas plus de détails pour le moment.
RTL 6h38, les handballeurs français défendent leur titre à partir de ce soir au Mondial.
Ils affrontent le Brésil et vont tenter de décrocher un troisième titre mondial consécutif. Ce sera une première dans l'histoire de ce sport. Autre ambiance à Marseille où l'OM qui joue dimanche contre Monaco en Ligue 1 suscite la colère des supporters depuis son élimination de la Coupe de France par le club amateur d'Andrézieux. Hugo Hamelin.
Oui, avec devant la commanderie les vestiges de cette semaine tendue. Des squelettes de fumigène et de la peinture fraîche pour masquer les Garcia dégagent. Ça promet pour le match.
Je pense que ça va être hostile. Il va y avoir des chants, des banderoles. Et puis la pression générale.
Pression constante avec 40 ultras en colère devant la commanderie mercredi et un comité d'accueil au retour d'Andrézieux dès dimanche. Papa Eli y était.
Et cette pression, la direction, elle doit s'en servir pour essayer de faire comprendre aux joueurs. Parce que quand un président qui n'a pas assez d'autorité ou un entraîneur qui n'a pas assez d'autorité, il rentre dans un vestiaire et il n'arrive pas à faire entendre son message à des joueurs, il peut se servir des supporters, nous, qu'on vienne titiller un peu les joueurs. Comme ça, les joueurs, ils comprennent que voilà, c'est comme ça et ils se bougent.
Turbulence en tribune, à prévoir dimanche soir, promesse conjointe des MTP, des Dodgers, des Sauce Winners habitués à faire vaciller les coachs et leurs présidents.
Hugo Hamelin, coup d'envoi de la 20e journée ce soir, 20e journée de Ligue 1, quand on reçoit soit Lille à 19h, Lyon-Reims à 20h45 à suivre dans Soir de Ligue 1 sur RTL de 20h à 23h. Et puis en tennis, Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial, annonce qu'il prend sa retraite cette année. L'Open d'Australie qui s'ouvre lundi pourrait être son dernier tournoi. L'Écossais de 31 ans, très ému en annonçant son départ. Il n'est pas sûr de pouvoir se remettre de son opération de la hanche l'an dernier. La douleur est vraiment trop forte, a expliqué Andy Murray.
Merci beaucoup Jérôme Florent.